Nous voici dans la deuxième partie du magazine Okapi Service. Quels sont les dispositifs à mettre en place pour mieux prévenir les catastrophes naturelles en RDC? Nous en parlons avec Maître Adrien Chungu Akaya. Il est président national de l'ASBL Action Volontaire. Il est avec nous ici au studio. Maître, bonjour.
Bonjour, Tati.
Bienvenue dans Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-6394. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Nous attendons vos commentaires, témoignages, questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui anime cette émission. Jean-Marc Matois qui est à la supervision. Marcel Ngombo la coordonne et la réalise. Et Jean-Noël Mokondo s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de cette deuxième partie d'Okapi Service.
Le 42 502, c'est Radio Okapi dans votre téléphone par un simple appel au 42 502. Une fois sur le 42 502, vous avez le choix entre différents programmes. En tapant le 311 pour le journal, la revue de presse au 312, le flash info au 313, le 321 pour le sport, la chronique santé au 322 et Banane Doulée au 323. Le 42 502, c'est Radio Okapi dans votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42 502, uniquement pour les abonnés Vodacom.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Trois jours de deuil décrétés dès hier, lundi à Lissala et dans toute la Mongala. Telle est la décision du gouvernement provincial à la suite de l'éboulement meurtrier survenu le dimanche dernier au quartier Akula. Après leur retrait des décombres, les 17 victimes ont été inhumées dans la soirée au cimetière de Pombi au quartier Etou. Entre-temps, les autorités s'activent pour la prise en charge des sinistrés et d'autres victimes dont les maisons ont été endommagées du fait de l'éboulement. Ces genres de calamités naturelles causent des dégâts matériels très importants et des pertes en vies humaines dans presque tous les coins de la République. Et souvent l'aide arrive en retard et les mesures de prévention de ces genres de catastrophes naturelles n'existent presque pas. Et comment est-ce qu'on peut prévenir ces genres de calamités? Nous en parlons dans cette deuxième tranche de notre magazine Okapi Service avec Maître Adrien Chungu Akaya. Nous rappelons qu'il est président national de l'ASBL dénommé Action Volontaire. Maître, dites-nous, parlez-nous un peu de votre ASBL Action Volontaire.
Oui, merci beaucoup Monsieur Tati pour la question que vous venez de me poser. En fait, l'ASBL AV, c'est une ASBL, une organisation non gouvernementale qui a pour objectif d'assainir l'environnement dans lequel est en train de vivre la population. Et lorsque il se trouve être dans l'impossibilité de pouvoir agir, ce qui entre dans ses objectifs, il fait l'impulsion au gouvernement pour qu'il puisse agir. Par exemple, je donne l'exemple d'une situation pour prévenir les pires. Il y a par exemple au niveau des pompages sur la rivière Lukunga est remplie des immondices. Alors, ces immondices entraînent comme conséquence lorsqu'il y a la pluie, les inondations qui engloutissent vraiment toute cette contrée-là et la population se trouve inondée de maisons, de pertes en vies humaines, de pertes de matériel, de maisons qui s'écroulent. Alors, pour prévenir ces cas de sinistre, il a fallu par exemple à un certain moment, comme je l'ai dit en ce moment, le gouvernement de la République avait pris une option de pouvoir curer toutes les rivières de la ville province de Kinshasa afin de prévenir les inondations futures. Et alors, cette décision du Conseil des ministres qui devait normalement s'exécuter, et jusqu'à ce moment où je vous parle, en notre contrée, la rivière n'est pas encore curée alors que nous sommes en train d'arriver avec une vitesse de croisière à la saison des pluies qui peut subir des conséquences énormes. Alors, pour prévenir à ce genre de sinistres, normalement, il faut curer la rivière. Parce que le gouvernement est là pour protéger la population. Et lorsque le gouvernement ne parvient pas à protéger la population, ça devient quelque chose qui n'est pas bon. Alors, en ce moment ici, la protection de la population s'avère indispensable pour prévenir les risques d'inondation qui est, en quelque sorte, je dis, catastrophe naturelle. Le gouvernement doit s'atteler parce que nous, là, nous sommes limités. Parce que je dis, ça entre dans l'objectif de l'AV, action volontaire, que lorsque nous nous trouvons dans une difficulté de pouvoir agir, nous cherchons, nous faisons un plaidoyer auprès du gouvernement pour qu'il agisse. En tout cas, c'est que, et dans les mêmes cadres d'idées, nous, l'action volontaire, nous avons intervenu, nous avons écrit aux autorités. Par exemple, le gouverneur de la ville province de Kinshasa, le bourgmestre de commune de Ngaliema, et nous avons écrit aux autorités pour qu'ils fassent en sorte qu'ils préviennent ce sinistre, ils mettent à notre portée, à la portée de la population, une poubelle publique. Et une poubelle publique qui doit être vidée à tout moment pour éviter le pire. Alors, si cela ne se fait pas à titre préventif, pour pallier, pour qu'on n'arrive pas au pire qui pourrait occasionner les inondations. Voyez en sorte que si on ne le fait pas, c'est la population qui va en pâtir. Souvent, on vient toujours en aval, alors qu'il faut agir en amont. Il faut agir en amont. Quand nous voyons...
C'est le cas de ce qui s'est passé à Lissala, où les éboulements, il y a eu une grande pluie qui a érodé les sols, et puis ça a entraîné des grandes érosions qui a causé mort d'homme.
Oui, spécialement quand vous voyez cette situation. Moi, je ne suis pas de Lissala, mais j'ai habité ces contrées-là. J'ai reçu des informations que c'est depuis longtemps que la ville de Lissala est menacée.
Par des érosions.
Des têtes d'érosion par-ci, par-là. Alors, quand on sent que la cité est menacée, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce qui vient d'arriver aujourd'hui, là, ne puisse pas arriver? Ce qu'il faut, c'est engager des moyens nécessaires pour prévenir, pour faire en sorte que les nids des érosions qui entourent la ville de Lissala enterrent ces nids d'érosion, prendre des mesures importantes écologiquement nécessaires pour faire en sorte que ces érosions ne progressent pas, pour qu'on en arrive à ce cas d'aujourd'hui. Si réellement il y avait pris des mesures préventives pour prévenir ces érosions-là, ce qu'on est aujourd'hui ne pouvait pas arriver. Mais si cela, nous sommes à ce stade-ci, je compatis avec la population de Lissala qui enterre ces hommes. Ces hommes-là sont nos frères et sœurs, sont des Congolais. Alors, en tout cas, une mémoire pieuse à leur endroit. Les familles éprouvées, en tout cas, qu'ils reçoivent vraiment notre consternation en ce qui s'est passé. Mais en ce moment ici, comme nous sommes l'AV veut en ce moment, puisque nous sommes nationales, veut en sorte que nous interpellons le gouvernement de la République à agir, pas seulement à Lissala, mais il y a des villes qui sont menacées.
Oui,
mais
les glissements de terrain à Bukavu, à Goma, les gens sont pris au dépourvu, au fait.
Oui, en tout cas, c'est quelque chose qui est d'une importance capitale. Prévenir, c'est guérir. C'est, dit-on, n'est-ce pas? Quand on veut guérir, quand on ne veut pas qu'on tombe malade, on doit se prévenir pour ne pas tomber malade, gravement malade. Mais dans ces cas d'espèce, quand les gens qui sont censés diriger la société, qu'on voit qu'il y a un mal à venir, il ne doit pas attendre en aval. Il doit agir directement pour que le pire n'arrive pas.
Oui, nous le voulons. Ici à Kinshasa, par exemple, les lits des rivières sont bondés des immondices, les eaux ne ruissellent pas et on s'approche de la saison des pluies. Donc il faut aussi faire un SOS pour l'écurage de ces cours d'eau.
Oui, en tout cas, nous demandons au gouvernement de la République, parce que c'est le gouvernement qui est censé agir en faveur de la population pour les protéger. Parce qu'aujourd'hui, si quelque chose de mal arrive à la population, par exemple, j'insiste beaucoup plus sur l'Ukunga. Mmh. La rivière l'Ukunga, ça fait depuis très longtemps et elle n'est pas curée. Elle n'est pas curée. Et vous voyez, des autres rivières sont en train quasiment d'être curées, mais nous impulsons au gouvernement de la République, à travers ses services, de faire en sorte que toutes les rivières de la ville de Kinshasa soient curées pour éviter les inondations,
les calamités, arriver à l'avenir.
Oui, pour éviter, parce que
de toute façon, on l'a toujours vécu à chaque saison de pluie, des cas d'inondations, des cas d'éboulements des terrains du côté de Kisenso, Kindele et autres.
Oui, en tout cas, là, c'est quelque chose d'une importance capitale quand le gouvernement. Mais le gouvernement, quand on voit le gouvernement. Le commun des mortels voit seulement quand il y a quelque chose qui ne va pas, il voit le président de la République. Mais non, le président de la République est là, mais il ne peut pas être omniprésent partout. Mmh. Il a ses représentants qui sont par-ci, par-là, dans les entreprises, partout, dans le gouvernement provincial, tout. Les bourgmestres de communes, ils peuvent faire quelque chose. Chacun à son niveau peut faire quelque chose pour prévenir les pires. Et donc, on ne doit pas imputer toujours, non, le chef de l'État n'a pas fait. Quand tout va mal, c'est le chef. Bon, on voit toujours, il n'y a pas une mauvaise troupe, mais il y a toujours, on dit, le mauvais chef. Hein, le mauvais chef. Mais le chef n'est pas omniprésent partout. Faire en sorte que chacun, là où il occupe une certaine responsabilité, faire le travail comme son poste l'exige. Et lorsqu'on ne le fait pas, je pense qu'il faut passer à la vitesse supérieure, sanctionner, démettre les personnes qui sont en train de mal travailler et mettre les gens qui sont susceptibles de bien faire le travail pour la bonne marche de la cité.
Oui, maître, dans cette émission, nous donnons également l'occasion à la communauté, à la population, en fait, de prendre la parole, hein, de s'exprimer sur les sujets que nous abordons dans nos émissions, au Capi Service, notamment. Je lis, par exemple, les commentaires d'un internaute. Hein, il nous dit ceci, il s'agit d'Emmanuel Ndzaï. Pour éviter les catastrophes naturelles dans ces pays, il faut mettre en place des plans d'aménagement pour chaque ville dont celui-ci, c'est dans les sites identifiés comme des sites à problème, à haut risque, afin d'éviter ces genres de catastrophes naturelles. Pour le cas de la ville de Kinshasa, par exemple, la ville s'étale de l'est, de l'ouest à l'est, et ce sont des sites qui ne sont pas aménagés, et avec les ruissellements sauvages des eaux, parfois, ils sont victimes des catastrophes naturelles.
Oui.
Comment réagissez-vous par rapport à son commentaire?
Oui, en tout cas, là, son commentaire va dans le même sens que vraiment la ville-province de Kinshasa devrait normalement subir un entretien parce que vous savez très bien que la ville de Kinshasa n'est pas très bien urbanisée. Et lorsque la ville n'est pas bien urbanisée, il y a manque de rigoles. Quand il y a manque de rigole, l'eau cherche les voies de par où passer. Et quand l'eau cherche par où passer, ça crée des trous et ces trous-là se transforment en érosion. Et quand ça transforme en érosion, ça peut perturber, ça peut écrouler des maisons, ça peut couper des avenues et ça a des conséquences énormes, incalculables. Même le gouvernement va toujours intervenir parce que quand une route est coupée, ce sont des moyens qui vont être déboursés pour réparer cette route-là. Et les moyens-là pouvaient être affectés à d'autres choses. Mais lorsque on s'attelle, on met ces moyens-là, là où on ne devait pas les mettre, là où on ne devait pas les défalquer, mais on les met quand même parce que cet argent devait servir à autre chose. Mais parce que la ville n'est pas urbanisée, parce que les personnes ont construit d'une façon anarchique, et ça entraîne des conséquences. Donc là, un plaidoyer auprès des autorités qui nous entendent dans ces moments-là, de faire en sorte que la ville soit urbanisée. Déjà, il y a déjà, c'est déjà consommé, c'est-à-dire que les choses, on a déjà mal fait de ne pas vouloir, de n'avoir pas urbanisé comme il faut la ville de Kinshasa. Mais il faut essayer un peu de prendre des voies palliatives pour faire en sorte que les eaux ne causent pas de préjudice aux paisibles citoyens qui sont dirigés.
Et malheureusement, cela arrive souvent. Et là, on s'approche de la saison sèche, comme de la saison de pluie, par exemple, comme nous l'avions évoqué. Pour les cas, par exemple, de la population qui fait des navettes, Kasangoul ou Kinshasa, la voie ferrée à la hauteur de Kimwenza, oui, est coupée à la dernière saison de pluie. Et oui, jusque-là, rien n'est fait. Et c'est la population qui est pénalisée.
En tout cas, ça, vous voyez vous-même que la voie ferrée, c'est une voie qui facilite l'écoulement de produits du Congo central vers la ville de Kinshasa, de Kinshasa vers le Congo central, et ça entraîne une certaine mobilité de personnes et de biens. Mais lorsque la voie ferrée est coupée, ça a des conséquences énormes qu'il faut faire en sorte que ce qui est arrivé puisse être corrigé pour que la voie, le train puisse circuler et puisse déplacer les biens et les personnes dans toute situation de quiétude. Voyez un peu ce que ça veut dire.
Quels sont les dispositifs à mettre en place pour mieux prévenir les catastrophes naturelles? Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez-nous vos questions au numéro 081-711-50-01. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service dans le courriel dénommé service@radiokapi.net.
Le 42-502, c'est Radio Capi dans votre téléphone. Par un simple appel au 42-502. 42-502. Une fois sur le 42-502, vous avez le choix entre différents programmes. Différents programmes. En tapant le 311 pour le journal, la revue de presse au 312, le flash info au 313, le 321 pour le sport, la chronique santé au 322 et banane doublée au 323. Le 42-502, c'est Radio Capi dans votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42-502. 42-502, uniquement pour les abonnés Vodacom.
Oui, maître, est-ce que l'ONG, l'ASBL que vous pilotez, Action Volontaire, vous regroupez des personnes qui sont volontaires, qui peuvent initier ce genre de projets pour endiguer, par exemple, des érosions ici à Kinshasa et à travers les pays?
Oui, l'ONG Action Volontaire regroupe des personnes responsables, des personnes qui sont appelées à agir volontairement comme l'action, comme le nom de l'ASBL l'indique. C'est-à-dire, c'est un groupe de volontaires qui se sont tous engagés pour faire en sorte que là où ils trouvent un mal social, qu'ils puissent intervenir directement. Et lorsqu'ils constatent que la hauteur, ça dépasse leur entendement, ça dépasse leurs capacités, l'ONG, l'ASBL, a l'obligation de pouvoir chercher des partenaires. Les partenariats peuvent être nationaux, internationaux, pour faire en sorte que ce qui entre dans l'objectif de l'action volontaire puisse être cristallisé.
Et vous l'aviez mise en place, vous êtes parti de quel constat pour mettre en place cette ASBL?
Oui, nous avons constaté que il y a certaines choses qui devraient normalement se faire, mais qui, jusqu'à ce jour, ne se font pas. Par exemple, l'exemple que j'ai évoqué, nous voyons que le gouvernement congolais peut faire des routes, par exemple.
Construire des routes.
Il construit la route. Mais, quand vous voyez après la construction, vous voyez les terres qui entourent la terre.
Qui viennent ensevelir la chaussée.
Et, sachant que quand le sable engouffre le macadam,
ça réduit la durée de vie de la route. Exactement.
Mais nous sommes une action volontaire. Nous avons déjà fait une action. Nous sommes passés. Nous avons acheté des balais. Nous avons commencé à balayer la route. La route, nous avons balayé et pour faire en sorte que la route soit propre et que ça ne puisse pas détériorer, rendre la route vétuste. Alors, ces gens-là, quand nous voyons qu'il y a des poubelles, il n'y a pas de poubelles, c'est ce que je vous ai dit. que nous avons écrit au bourgmestre de la commune de Ngaliema pour mettre à notre disposition une poubelle publique. Parce que les poubelles publiques n'existaient pas. Et vous voyez, quand la population utilise les déchets, qu'ils utilisent, qu'ils ont, ils n'ont pas un endroit fixe pour aller les jeter.
Et comme et généralement, ce sont les cours d'eau qui servent des dépotoirs immondices.
Ils jettent dans la rivière Lukunga. Quand ils jettent, par exemple, dans la rivière Lukunga, la rivière Makelele, toutes les rivières qui jonchent la ville province de Kinshasa sont transformées en immondices. Et aussi, ils mettent aussi les rigoles, les endroits où le eau usée devrait normalement passer avec toute paisibilité, c'est transformé en poubelle. Et la population vient et jette les poubelles dedans. Et comme conséquence, l'eau n'a plus l'endroit
où passer
et ça cause des dégâts. Alors, pour ne pas arriver à ces fins-là, nous pensons que il faut aussi l'éducation civique de la population. L'éducation civique. Où est-ce qu'on peut jeter ou ne pas jeter déchets. Quelque chose.
Oui.
C'est un travail que vraiment l'AV doit sensibiliser. C'est ce que nous nous sommes mis dans la tête, que nous sommes appelés à sensibiliser, à faire en sorte que la population puisse être informée du bien fondé de jeter les ordures aux endroits appropriés. Ça, c'est un exemple. Et il y a tant d'autres exemples que nous pouvons donner dont l'AV se donne la possibilité de pouvoir agir là où il trouve qu'il peut intervenir. Le gouvernement, par exemple, n'a pas intervenu, mais nous intervenons d'abord et par la suite, le gouvernement, les autorités peuvent voir que, par exemple, que nous sommes limités, ils peuvent nous mettre une main forte pour faire en sorte que nous puissions aboutir. Et quand ça aboutit, c'est pour notre bien, pour le bien de la population, pour le bien de la communauté. Voilà.
Oui, dans cette émission, maître, comme j'ai dit précédemment, donc nous donnons également la parole à la population. Il y a un auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa.
Oui.
Il s'appelle Laurent Mignon. Bonjour Laurent.
Bonjour Marcel Ngomombala. Merci pour cette opportunité. Je pense que les catastrophes naturelles font les gens en RDC, surtout ici à Kinshasa et partout là-bas. Je pense que les comportements malsains, les comportements non deux de nos populations sont à la base de ça. Parce que vous voyez aujourd'hui comme à Kinshasa, il y a des endroits qu'on appelle en environnement les endroits non efficaces, donc les endroits qu'on
non édificants, dit oui.
Ouais, mais ici à Kinshasa, il y a des gens qui construisent par-ci, par-là. Donc vous vous rendez compte que les gens n'ont pas cette culture-là. Je pense que le manque de la culture sur l'habitat, donc c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Et je pense qu'il est aussi de la responsabilité de l'État, parce que l'État octroie les parcelles. Là, on ne peut pas donner le parcelle. Je pense que la cupidité de nos autorités, l'amour de l'argent, donc c'est ça ce qui est aussi à la base de ça. Donc, tant que nous sommes dans un État corrompu, tant que la corruption régeable tout, je pense que ces genres de catastrophes seront vraiment éternelles et ça ne finiront pas. Tant que la mauvaise gouvernance, tant que nous avons des autorités, tant que nous avons des députés, des ministres incrédibles, les gens qui s'accrochent au péché d'évoluer, les gens qui s'accrochent au péché de toujours faire les mauvaises choses. Je pense que ces mots ici rongent notre société. Je pense que ces genres de catastrophes ne termineront jamais tant que la mauvaise gouvernance, tant que l'incrédulité par rapport dans la classe politique.
Oui, mais Monsieur Laurent, et nous aussi, la population à notre niveau aussi, nous avons la responsabilité d'assainir notre milieu pour éviter ce genre de catastrophes naturelles. Vous voyez, par exemple, à Kinshasa, les lits des rivières sont devenus les déversoirs des immondices.
Mais ça dépend aussi de l'éducation. Ici, à Kinshasa, il n'y a pas l'éducation. Je peux vous dire que donc, parmi les villes de la RDC, la ville de Kinshasa, il n'y a pas l'éducation. Il n'y a pas la culture. C'est ça, parce que pourquoi? Comme à Kinshasa ici, la plupart des gens construisent, c'est tout. Donc, les autorités restent vraiment impuissantes. On ne prend pas de décisions. Je pense que le manque d'éducation de la part de notre population, ça cause aussi le seul mal.
Merci beaucoup, M. Laurent. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Cette fois-ci, nous allons à Beni pour donner la parole à Moïndo. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Nous parlons des mécanismes à mettre en place hein, pour éviter ou prévenir des catastrophes naturelles. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, monsieur Mohindo?
Oui, en fait, par rapport à la prévention de catastrophes naturelles, il y a d'abord, on devrait passer par les plans d'aménagement pour chaque zone urbanisée. Mmh. Même si ce n'est pas des zones urbanisées, on peut avoir même des villages. Partout là où résident les gens ou les activités humaines, on devrait toujours passer chaque fois par des plans d'aménagement. Et ceci devrait être à la responsabilité de la division de l'aménagement. Il y a eu l'arrêté, c'est une ordonnance qui venait d'être publiée récemment, qui va être animée par ceux qui auront cette responsabilité-là de mettre à place le plan d'aménagement pour les différentes zones urbanisées au niveau de la République. Mais dans ce plan-là, on devrait normalement chaque fois représenter des sites à haut risque, parce qu'il y a des zones, par exemple, ceux qui résident dans les bas-fonds de montagnes, des collines qui dépassent 60 degrés, ce sont des zones qui ne devraient pas normalement être habitées. Mmh. Il y a certains qui se permettent même de construire dans des lits, des rivières, donc ce sont des zones où normalement, sur les plans d'aménagement, ce sont des zones qui devraient être libres pour permettre le passage des eaux lorsqu'il y a des précipitations. Mmh. Donc voilà, et puis il y a beaucoup d'arsenal qui doivent être d'abord étudiés en amont pour que les gens puissent s'installer dans une zone et pour installer certains édifices. Et aussi, maintenant, ma crainte reste au niveau où, même si la division, il y a une arrêté qui va mettre à place les divisions de l'aménagement. Maintenant, ma crainte est de savoir, est-ce que ces divisions-là seront dotées de personnels qui sont qualifiés à la matière, ou bien encore, ils vont se baser toujours des partis politiques. Oh, comme tel est de tel parti, il peut être chef de division pour telle zone. Et à la fin des comptes, il n'y aura pas des structures qui mettront à place des techniques pour prévenir de tels événements. Donc voilà, c'est la crainte où moi je suis en train de situer ma préoccupation.
Oui, M. Mohindo, dites-nous un peu, partagez-nous un peu l'expérience de vous qui êtes à Béni. Hein. Est-ce que le plan d'aménagement du territoire est respecté dans cette zone?
Non, ce n'est pas respecté. C'est d'abord, la première des choses, beaucoup de zones ou de villes n'ont pas de plan d'aménagement. Il y a certains plans qu'on connaît pour certaines zones grâce à l'intervention de certaines organisations internationales humanitaires, mais dire que le gouvernement qui a mis un vrai plan d'aménagement pour beaucoup de sites, il n'y en a pas. Et aussi, ce sont les mêmes animateurs de ces institutions qui peuvent tenir compte du respect de ces plans-là, qui les font aussi violer. Vous allez voir, par exemple, les services de cadastre, les services de l'urbanisme. Ce sont eux aussi qui devaient travailler en collaboration avec la division-là de l'aménagement. Mais sur terrain, ce sont eux qui font violer, et ce sont eux qui octroient aux gens des parcelles dans des zones à haut risque. Vous allez voir même, dans des zones à haut risque, c'est une parcelle qui est bornée. Vous vous demandez qui est venu borner ici si ce n'est pas les services de tutelle. Donc voilà, et puis c'est un peu compliqué même dans notre zone ici. Et il y a beaucoup de morts qui arrivent comme ça après des précipitations parce qu'il y a eu l'eau qui a envahi les maisons et on assiste à des morts et ça reste comme ça impuni.
Merci beaucoup, Mohindo, hein, de votre témoignage et proposition. Donc, l'invité aura le temps de commenter sur ta préoccupation. Retournons cette fois-ci à Kinshasa pour donner la parole à Roger Marcel. Bonjour.
Bonjour, M. Tati. Bonjour à notre invité.
Oui, quels sont les mécanismes à mettre en place hein, pour réduire ou prévenir des calamités ou des catastrophes naturelles? Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet?
Tout d'abord, M. Tati, moi, je vois... Il faut tout d'abord passer à l'autorité de l'État. Parce que quand on regarde vraiment à Kinshasa, il y a même des endroits qui ne sont pas prévus, que les gens peuvent rester même ou construire. Mais vous allez voir, ces endroits-là sont vendus, et les gens-là sont là, après il y a des dégâts, c'est l'État qui intervient pour dire non, ces endroits ici n'étaient pas prévus pour vendre et puis pour assister un peu à ces gens-là. Moi, je demande s'il y aura vraiment l'autorité de l'État. Ce n'est pas la toute première fois de parler sur ce sujet. Mais aujourd'hui, même avant qu'il y ait tout près de limiter, ce petit rivière des Calabres, vous allez voir les gens qui sont aux alentours, tout près là. Mais lorsqu'il y a des pluies, il n'y a pas moyen que de l'eau puisse recycler mien. Mais si l'État quand même avait pris un peu de vie, le débit. Parce que quand les gens là viennent construire, faire des choses là, l'État congolais passe par là et voit. Mais si quand même l'État congolais pouvait s'imposer, c'est le débit, et voir au moins quelque chose qu'il pouvait faire. Donc on ne peut pas arriver à faire ce genre d'édicat.
Merci beaucoup, M. Roger Marcel. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Maître, comment répondez-vous à M. Laurent? Laurent qui dit qu'il faut un grand travail, hein, des communications, des vulgarisations sur les normes d'assainissement et des endroits où la population n'est pas censée habiter.
Oui, c'est quelque chose d'une importance capitale dans le fait que les endroits qui sont appelés à ne pas être lotis, on ne doit pas permettre, donner des autorisations de construire, on ne doit pas vendre.
Mais c'est que l'on constate sur le terrain que c'est l'opin des terres sont vendus également par c'est l'État qui donne aussi l'autorisation de construction dans ces zones-là.
Oui, bon, en quelque sorte, je dis l'État parce que ce sont les représentants de l'État qui morcellent et qui mettent en vente ces étendues-là. Mais normalement, lorsqu'on constate que c'est un endroit qui n'a pas été prévu pour la construction des maisons, mais les autorités là, certaines autorités, par exemple, des services des cadastres, ça, quand je vois le cadastre, je vois le ministre des tutelles, c'est le ministre des Affaires foncières. Alors, quand les autorités agissent mal dans leurs prérogatives régaliennes, qui sont en train de mal agir, en ce moment ici, lorsqu'il y a des conséquences qui arrivent, en tout cas, la responsabilité civile et pénale est individuelle. La personne qui a engagé, qui a permis, qui a autorisé de construire dans des endroits inappropriés,
à haut risque,
mérite d'être sanctionnée, d'être poursuivie en justice pour que la justice soit faite. Parce que quand vous savez très bien que c'est un endroit qu'on ne peut pas vendre, on ne peut pas autoriser à des personnes pour construire, même pour l'autorisation de construire. Quand les gens viennent demander l'autorisation de construire, normalement...
Ce document ne doit pas être délivré au bureau, il faut aller sur terrain, voir l'emplacement de la parcelle.
Oui, constater que la place, est-ce que cet endroit dont la personne vient demander l'autorisation de construire, est-ce que c'est un endroit approprié pour la construction? Et lorsqu'ils trouvent que c'est un endroit qui répond aux normes, qui doit normalement, c'est bien de construire, ils l'autorisent. Mais lorsqu'ils trouvent que non, c'est un endroit accidenté, c'est un endroit où l'eau de la cour, de la rivière,
les lignes ou majeures de la rivière,
doivent arriver là-bas, en tout cas, on n'autorise pas. Mais si une autorité comme ça autorise, la responsabilité va lui incomber.
Nous aussi, la population a la responsabilité de faire un choix.
Oui,
parce qu'il y a cela où on leur dit que ça, c'est une zone à problème.
Oui.
Ben parce qu'il y a crise de l'habitat, il dit, je construis quand même.
Oui. Mais là, la responsabilité semble être partagée, dans le sens que on s'engage, parce que la personne qui vient acheter, il a vu l'endroit, il dit non, moi j'achète, malgré qu'on m'ait dit que cet endroit n'est pas approprié, même s'il voit, il dit non, même si comme ça, moi j'achète. Mais quand les sinistres arrivent, la responsabilité est partagée parce que les autorités qui nous dirigent, les personnes de service des cadastres qui sont appelées sous la tutelle du ministre des Affaires foncières, quand ils agissent, c'est en âme et conscience.
Oui.
En connaissant très bien leur travail. Et quand ils agissent mal, ils vendent des terrains à des endroits inappropriés et que les sinistres arrivent, en tout cas, je pense que ces personnes doivent être sanctionnées d'une façon exemplaire. Parce que s'ils sont sanctionnés d'une façon exemplaire, cette situation ne va pas se pérenniser et il y aura changement et ça va faire en sorte que les sinistres n'arrivent pas parce qu'on a prévenu. On a prévenu.
Oui. L'auditeur de Ben, il a fait allusion au plan d'aménagement du territoire. Oui. Il faut l'élaborer, il doit exister, parce que dans certaines zones, il n'y a pas de plan d'aménagement. Oui. Ou s'ils existent, ce sont des plans qui datent de l'époque coloniale. Oui. Et pourtant, des villes s'agrandissent, des zones rurales s'agrandissent également. Oui. Et ces agrandissements, les plans d'aménagement ne sont plus adaptés aux faits qui ont été élaborés par les passés, ne sont plus adaptés aux réalités d'aujourd'hui.
Oui, oui, oui. C'est une conséquence normale, parce que vous savez que nos villes sont en train de grandir à une vitesse là extraordinaire. Vous voyez, prenez par exemple la ville de
Kinshasa.
Il y avait une petite ville, mais maintenant les gens sont en train de construire. Si vous avez prévu une petite rigole pour le passage des eaux usées, des eaux de pluie, alors à l'allure de l'agrandissement de la ville, Il faut les agrandir également, parce que des maisons qui sont construites à hauteur, quand il pleut, ces eaux-là sont recueillies et déversées avec vitesse dans les rigoles. Alors, si vous n'avez pas agrandi, l'eau-là va risque de manquer des endroits pour passer. Et quand ça manque l'endroit d'écoulement, avec une certaine certitude que ça va déborder dans des maisons et ça va causer des dégâts.
On l'a vécu ici à Kinshasa, par exemple. Lorsqu'il pleut abondamment, on ne peut pas traverser, circuler facilement sur... même le boulevard du 30 juin, il faut attendre 3 heures, 4 heures du temps pour rouler.
Oui, alors ça, ce n'est pas normal. C'est quelque chose qu'il faut prévenir. Pendant que nous étions durant la saison sèche, c'est le moment... par excellence que les autorités devaient se mettre pour corriger, pour voir les failles. Pourquoi, quand il pleut sur le boulevard, le boulevard est inondé. Le boulevard du 30 juin est inondé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Peut-être que on doit agrandir les voies. S'il faut même exproprier des maisons pour utilité publique, pour que la rivière puisse trouver sa voie, son lit normal pour que les eaux passent directement au fleuve. Il faut le faire. Parce que si on ne le fait pas, le sinistre va arriver et le pire va arriver et ça sera trop tard.
Sur le Sendou également, c'est le même constat. Lorsqu'il pleut, vous ne savez pas sur qui il est. Vous savez, moi, j'ai été convié à une activité au Palais du Peuple. Ça a été reporté à cause de la pluie. Il a plu et la chaussée était sous les eaux.
Vraiment. Ça, ce sont des choses qu'on doit faire. La pluie ne doit pas être une occasion pour les Congolais de ne pas aller au travail, de ne pas se mettre au travail. Mais au contraire, même quand il pleut, le travail est toujours là. Quand il pleut, le travail... Mais quand la pluie commence à être un obstacle pour les Congolais de pouvoir aller au travail, là, ça devient un problème sérieux. Donc, le pouvoir public doit booster son action pour faire en sorte que ces conditions de l'aménagement de la ville de Kinshasa soient restaurées. Parce que les conditions telles que c'était jadis à l'époque coloniale, ça reste comme ça. Donc l'autorité urbaine doit se mettre au travail pour faire en sorte que la ville province de Kinshasa et les autres villes de la RDC puissent trouver le voie normale d'écoulement des eaux pour que les sinistres n'arrivent pas. Et pas seulement, quand on parle de catastrophes naturelles, on voit pas seulement les eaux. On voit par exemple les volcans de Nyiragongo, au nord Kivu, les volcans actifs. Et quand ces volcans, on sait que les volcans, c'est quelque chose qui est vraiment naturel, on ne peut pas l'empêcher.
Oui.
Mais du moins que nous puissions savoir que les volcans tels que ça est, le site volcanique, le pouvoir public doit savoir que, par ses services, doit savoir que, à ce moment, nous voyons qu'il y a une progression.
Une surveillance permanente, informer la population.
Oui, une surveillance.
Et autoriser également le lotissement dans des zones acceptables.
Oui, en ce moment-là, quand on sait que ça est en train de progresser pour faire une éruption, on prévient la population pour prendre des dispositions. Et non, quand le volcan arrive, quand il y a une éruption, ça trouve la population sans aucune alerte, directement comme ça, et il y a les sinistres, de nombre de morts à cause de l'éruption volcanique. Donc, ce sont des choses que nous devons faire, le gouvernement, les autorités qui sont en train de nous entendre doivent faire un effort de faire en sorte que la prévention soit faite.
Maître, cette fois-ci, nous allons à Ariwara, en Ituri, pour donner la parole à M. Alexis, à qui nous disons bonjour. La liaison s'est interrompue avec Ariwara, le temps de rappeler M. Alexis. Il y a l'auditeur Roger Marcel, qui a parlé de la sensibilisation de la population aussi, qui sont dans des zones à haut risque, et ils doivent les savoir et prendre des précautions.
Oui. La sensibilisation, c'est quelque chose qui est crucial. Parce que le peuple meurt par manque de connaissances. Quand vous ne savez pas que cet endroit ici, c'est un endroit qui est à haut risque, et quand vous y arrivez, vous allez subir les conséquences d'être en cet endroit-là. Mais quand vous ne savez pas, et lorsque une personne vient vulgariser comme... vous dire que non, cet endroit c'est dangereux, et c'était un endroit qu'il faut pas construire, cet endroit ce n'est pas un endroit où tu peux t'asseoir, cet endroit ce n'est pas un endroit où on peut construire une ville, et que
comme vous êtes déjà là, prenez telle précaution.
Quand on prévient comme ça, c'est quelque chose d'important, parce que la vulgarisation est importante. Maintenant, là, c'est la vulgarisation.
Je me rappelle, par le passé, Foleco faisait des sensibilisations auprès des ménages dans la commune de Mongafula, qui est Saint-Sau, pour créer des bassins de rétention des eaux usées dans des parcelles. Oui. Parce que, vous voyez, Mongafula, c'est dans les zones collinaires, qui Saint-Sau également, et il y avait beaucoup de boulements de terrain. Et pour éviter ce genre d'incident, on a demandé aux ménages d'ériger dans des parcelles, des bassins de rétention d'eau. Ça, ce sont des activités à mener d'une manière permanente, au fait.
Oui, ça c'est important. En dehors de ça, la sensibilisation doit beaucoup plus...
Oui, on me signale que M. Alexis d'Ariwara est en ligne. Alexis, vous êtes là?
Oui, je suis là. Bonjour, monsieur le journaliste.
Bonjour, on n'a plus assez de temps. Allez-y, nous parlons des mécanismes à mettre en place pour éviter ou prévenir des catastrophes naturelles.
Oui, bonjour à tout le monde, aux auditeurs. Moi, je voulais dire, concernant cette thématique, ceci. Nous n'avons pas de vrais gouvernements ni des autorités qui pensent à la population. Parce que gouverner, c'est prévoir. Quand vous voyez les catastrophes qui arrivent, nous savons que s'ils laissent comme ça, alors ils vont intervenir par après pour gagner beaucoup d'argent. Prenons la route dont on parle de la ligne de Lopa à Bunia. On avait arrangé cette route récemment et ça a commencé à s'abîmer. Au lieu que les autorités aient conscience de maintenir cette route, on a laissé d'abord que cela s'abîme pour que les gens puissent crier. Alors pourquoi le gouvernement doit vouloir qu'à toutes choses, la population puisse crier afin d'intervenir? Pour la guerre, il faut que la population crie. Pour des catastrophes naturelles, il faut que la population crie. Pour qu'on paye les enseignants, et il faut que les enseignants puissent crier. Alors ça, c'est quel gouvernement? Nous n'avons pas de gouvernement. Il faut chercher, peut-être avec les élections qui arrivent, qu'on puisse avoir des gens qui pensent d'abord à la population, au lieu de penser d'abord à leur ventre. Parce que sinon, vous voyez ce qui arrive à Lissala, vous voyez ce qui est arrivé à Goma, vous voyez ce qui ça arrive même à Kinshasa, à leurs yeux, ils voient que l'eau est en train de submerger la population, mais personne n'intervient pour tirer les rivières. Qu'est-ce que ça donne? Par exemple, l'action volontaire qui se donne pour aider les gens. Pourquoi ne pas donner des moyens à cet aspect-là afin d'aider la population? Vraiment, c'est malheureux avec nos gouvernants. Il faut que le Seigneur nous aide à nous donner de vrais gouvernants qui peuvent nous aider. C'est ce que je voulais seulement dire.
Merci beaucoup, M. Alexis. C'est beaucoup plus c'est de ton interpellation. Gouverner, c'est prévoir maître. Qu'est-ce que vous dites? Ça, c'est la réaction d'Alexis.
En tout cas, c'est quelque chose qui se cristallise dans le sens que quand on gouverne sans prévoir, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Donc, gouverner, c'est prévoir. Quand on prévoit, on sait très bien faire les choses et le pire ne pourra pas arriver parce que quelque chose a été préparé en amont. Lorsque on veut que la population puisse vivre dans des conditions paisibles, il faut faire en sorte que la prévention soit de rigueur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que... vous voyez un petit trou sur la chaussée
qui risque
de devenir très grande et de bousser beaucoup d'argent pour la réparation. Quand on voit ce petit trou...
Les nids de poules, là, vous arrangez directement.
Et non...
vous allez engager, vous dépensez moins d'argent.
Vous allez dépenser moins. Pour moi, je me disais même, pour la ville, pour les villes congolaises, je me disais que en dehors de ce que Foner, en dehors de tout ce qui existe, OVD, tout ça, il faut créer une office.
Ou une brigade, d'entretien qui doit suivre, qui doit faire les monitoring de l'état des routes, tout ça.
Et quand on constate qu'il y a une petite
un petit trou,
on arrange directement. J'ai entendu ici dans la ville de Kinshasa, province de Kinshasa, le gouverneur de la ville de province de Kinshasa dire opération sans trou. C'était une initiative géniale. Que moi j'ai applaudi.
Oui.
Que normalement, si vraiment ils s'attelaient à cet objectif-là, la ville de Kinshasa, nous n'aurons pas de difficultés. Quand vous voyez des embouteillages qui se créent dans la ville province de Kinshasa, c'est parmi tant d'autres les causes, c'est les trous. Devant un trou, chaque véhicule doit ralentir, et quand ça ralentit...
Entrer dans les trous, ressortir,
et ce mouvement-là, ça crée
des bouchons.
Et quand ça crée des bouchons, nous tous qui sommes des usagers de la route,
on est pénalisés.
L'endroit où on pouvait faire 20 minutes, on fait 2 heures, 3 heures.
Et c'est stressant.
Et vous étiez en train d'aller travailler. Et parce que quand nous allons au travail... Nous participons au développement de notre pays.
Exactement.
Et chacun en son domaine spécifique.
Tout à fait.
Et quand nous sommes en train de partir au travail, mais parce que la route n'est pas bonne, je dois arriver, moi par exemple, j'ai une audience par exemple au tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe ou à la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Quand j'arrive sur la chaussée, normalement les audiences commencent à 9h. Je quitte déjà à 7h. À 7 heures. Quand je quitte, je viens trouver l'embouteillage terrible. Je suis pressé, je dois arriver à temps à l'audience, mais je trouve le bouchon. L'embouteillage, je ne peux pas passer. Quand je ne suis pas en mesure de passer, je vais arriver en retard et la défense, la cause, la personne que je suis censé défendre, ça ne va pas bien aller. Et comme conséquence, je dois prendre le moyen le plus rapide. Avec toute conséquence qui peut advenir.
Avec beaucoup de risques à la moto, par exemple.
Je prends la moto, mais malgré moi, donc mon cœur saigne, je souffre, mais je dis, bon, je n'ai pas de choix, je ne peux pas laisser mon client comme ça, je prends la moto et j'avance et j'arrive quand même à temps. Donc, il faut prévenir.
Oui, madame, est-ce qu'au niveau de l'action volontaire, vous avez un projet qui nécessite d'être un appui de la part de l'État congolais dans le cadre de la prévention de catastrophes naturelles?
Oui, dans le cadre de prévention de catastrophes naturelles, nous sommes beaucoup plus attelés sur les cas des inondations, de la propriété, de la salubrité,
l'assainissement du milieu,
parce que quand le milieu dans lequel nous sommes en train de vivre est propre, c'est-à-dire que la population aussi ne risque pas à attraper des maladies qui peuvent venir à la même propriété de l'environnement.
Exactement.
Alors, quand l'environnement est propre, on suppose à un certain moment que la population aussi va s'épargner des maladies.
Oui, et lorsque les cours d'eau sont curés, il y aura moins d'inondations.
Moins d'inondations également. Et quand c'est curé, il n'y aura pas aussi beaucoup de moustiques. Hein? Quand il n'y a pas beaucoup de moustiques,
il y a moins de maladies.
Mmh. Donc c'est de cette façon-là que le gouvernement, les autorités qui nous dirigent doivent faire pour faire en sorte que la population soit protégée tant contre les maladies, tant contre les catastrophes naturelles et c'est pour le développement de notre pays, la République démocratique du Congo.
Mais pour des gens qui aimeraient entrer en contact avec vous, parce que c'est une entité qui est censée se déployer à travers les pays, oui. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, maître, ou un courriel par lequel les gens peuvent interagir avec vous?
Je pense qu'ils peuvent nous atteindre au numéro. Ils peuvent nous atteindre par mon numéro aussi, 081 031 94 88.
Rappelez le numéro.
081 031 94 88 et un autre numéro, 089 41 43 382.
Maître Adrien, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Merci d'avoir été avec nous. Hein. Nous rappelons que vous êtes le président national de l'ASBL. Action volontaire, qui est dans l'humanitaire, gestion de catastrophes naturelles. Oui. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la Radio Capi et nous espérons que c'est pas la dernière fois.
Oui, merci Tati, je suis content d'être passé, mais je voulais, avant de pouvoir quitter, marteler sur le fait que l'endroit où j'ai beaucoup plus martelé, c'est le fait que d'intervenir sur la rivière Lukunga, curer cette rivière et pour que la population, la pluie qui vient à pas de géants puissent les préserver contre les sinistres à venir. Donc, prévenir, c'est quelque chose pour faire en sorte que la population soit protégée. Et cette population de cette contrée-là a besoin du curage de la rivière Lukunga pour faire en sorte que la saison de pluie qui arrive, ils soient protégés. Ils soient protégés contre cette intempérie et les dangers qui les guettent à grands pas des géants.
Merci beaucoup, maître, d'avoir été avec nous hein, dans le cadre de cette tranche au Capi Service. Nous rappelons que vous êtes président national de l'ASBL, dénommé Action Volontaire. À la prochaine occasion.
Merci beaucoup, Tati. Je vous dis merci.
C'est par ici que prend fin au Capi Service que vous a présenté Tati Mapoukou sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Marcel Ngombo était à la coordination et Jean-Noël Mokondo s'est occupé de la prise des sons. Les rendez-vous est pris pour demain pour un nouveau rendez-vous d'au Capi Service. Excellente condition d'écoute de nos programmes.